une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ?
Épisode 9.
Il se passe quoi ?
Il se passe quoi ? À Braye-sur-Roya. Un bol d'air dans la vallée de la Roya. Rencontre avec Cédric Héroux au milieu de la communauté Emmaüs Roya. Flashback, France Inter, 30 mars 2021.
La relax pour un militant devenu symbole de l'accueil des migrants.
Cédric Héroux, l'agriculteur de la vallée de la Roya, à la frontière entre l'Italie et la France, connu pour aider les candidats à l'exil traversant les Alpes et trouvant refuge dans un camp d'accueil que le militant a fini par organiser. La Cour de cassation a rejeté un dernier pourvoi du parquet général de Lyon et rendu sa relax définitive. La fin d'un très long parcours judiciaire, 11 gardes à vue, plusieurs procès, une saisine du Conseil constitutionnel qui avait consacré le principe de fraternité en 2018. Alors Cédric Héroux, soulagé ?
Je crois que je suis plus en colère que soulagé. Vous savez, après 11 gardes à vue, 5 perquisitions, des nuits dans des cellules qui puent la pisse et la merde, 5 procès, des dizaines de milliers d'euros d'avocats, 2 ans de surveillance systématique autour de mon domicile par 50 gendarmes mobiles, des contrôles d'identité quotidiens avec des « Cédric Héroux, s'il vous plaît, vos papiers ». Et tout ça pour ça, quoi. Et moi, ce qui me met en colère, c'est à quel point le ministère public, hein, donc le gouvernement, l'État, peut utiliser la justice pour s'acharner contre un militant. Un militant, c'est quoi un militant ? C'est quelqu'un qui s'oppose dans une démocratie à une dynamique politique. Le ministère public s'est servi de la justice pour faire taire une opposition politique.
Depuis cette victoire juridique au printemps 21, il y a un nouvel élan à Braye-en-Roya, le fief de Cédric Héroux, où l'accueil des migrants ne se joue plus uniquement que dans l'urgence et l'improvisation, mais loin des caméras et du feu de l'actualité, et autour d'une structure à la fois juridique et physique, indépendante et militante. Cette communauté, Emmaüs, est en pleine évolution et restructuration, et le projet humanitaire, concret, teinté d'utopie, avance à grand renfort de soutien par les nombreux bénévoles et des dons venus de la France entière. Aujourd'hui, l'infatigable Cédric Héroux nous fait visiter l'espace en construction de la future cantine associative et lieu de rencontre dynamique, joliment nommé le bol d'air. Et ceci dans un cadre bucolique, surplombant le fleuve de la Roya, dans cette vallée qui de tout temps a accueilli ceux qui venaient d'ailleurs. Je te suis.
Merde.
Pour nous dire bonjour, on arrive dans un décor qui est en train de faire peau neuve, alors que le cliché, c'était quand même de te trouver au milieu de tes troupes, de tes animaux, dans ta ferme, au fin fond de la vallée, où il fallait faire 3 km quasiment à dos d'âne. Là, non, on est à l'intérieur du village de Braye-en-Roya, dans une bâtisse qui est en train de flamber très neuve.
Elle n'est pas neuve, elle est vieille, elle a 150 ans, mais on l'a toute refaite. Là, on est dans une cuisine, c'est la future cuisine de la cantine associative. Et on a refait la dalle, les carreaux, et on voit là, sur le plafond, il y a des fils qui pendent. Et tout est fait par des bénévoles, des compagnons, nous. Et c'est vrai qu'on n'est pas, enfin moi je ne suis pas maçon, je ne suis pas carreleur, et on fait un peu comme tout le monde, on va sur des tutos et on apprend. Et on invente, en fait, et on se rend nécessaire. En fait, il y a... Emmaüs Roya, c'est quoi ? C'est des compagnes et des compagnons, donc des gens qui sont accueillis ici, qui sont SDF, donc accueil inconditionnel. Donc tu as des Français, des étrangers, des hommes, des femmes ou des enfants aussi. On a deux familles qui sont là. Et la particularité d'Emmaüs Roya, c'est qu'on fait l'agriculture. On a été la première communauté paysanne. Et là, depuis, on a ouvert en 2019. Au début, c'était chez moi. C'est avant qu'on achète ce lieu là où on est en ce moment. Voilà, on est allé voir Emmaüs, on leur a dit « Nous, on aimerait bien vous rejoindre, parce qu'en fait, en termes d'accueil inconditionnel, il n'y a que Emmaüs qui fait ça. » Tu vois. Et nous, on a cherché un peu de partout pour s'inspirer. On ne savait pas trop quoi faire avec les personnes qui étaient chez nous, qui étaient des personnes en migration, qui avaient arrêté la migration chez nous, et qui se sont retrouvées pour beaucoup sans papier ou en cours en fait, de procédure, qui n'avaient pas le droit de travailler. Et les gens étaient chez moi sans activité et devenaient dans un espèce d'état dépressif. Et on s'est dit « Il faut retrouver une activité. » Chez moi, je ne pouvais pas les faire travailler parce que j'étais agriculteur et ça aurait été considéré comme du travail dissimulé. Ou cette fameuse contrepartie en fait pour des personnes pour l'aide à l'entrée au séjour ou voilà. Et là c'est différent. Là c'est on n'est plus seul en fait. On appartient au groupe quoi. Et c'est... Tiens, on change d'ambiance sonore, là, non?
Ah oui, carrément, là on vient de bouger dans une pièce plus tamisée, c'est l'ancien moulin.
Avec des vieux engrenages en fer, en fonte. Ouais. Et là, on voit, il y a des bâches un peu partout, parce qu'on est en train de faire des travaux, en train de repeindre, de poncer. Il y a une échelle devant nous, il y a des bombes de peinture, il y a des, voilà, du papier à poncer. Et des enduits tout neufs, là, on a tout refait. Mais on sent, en fait, encore l'odeur de la chaux encore fraîche. Compliqué dans les Emmaüs Roya, c'est que c'est des personnes qui se retrouvent et qui vivent dans un même bâtiment, qui travaillent ensemble, qui partagent le repas ensemble, qui partagent les douches, les sanitaires, et qui ne se sont pas choisis. Et moi, je suis sûr que même les meilleurs amis du monde qui vivraient dans des conditions pareilles finiraient par s'entretuer. Et là, on voit que ça fonctionne, mine de rien. Tu vois, on est dans la tête des gens, et surtout on voit que la montée de l'extrême droite, on dit oui, on ne peut pas vivre avec les étrangers, etc. Là, en fait, tout le monde est étranger pour tout le monde. Hein. Il y a 8 nationalités. En fait, il n'y a que des étrangers. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin, et ça se passe plutôt bien, quoi. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est dans la gestion, en fait, de la migration et de la précarité, c'est que j'ai l'impression que les personnalités politiques, les gouvernements mettent tout en place pour que ce soit un échec. Et nous, on essaye de Emmaüs Roya... à notre manière, à notre petite manière, j'ai envie de dire, hein, de démontrer que si on a envie que ça se passe bien, on y arrive, quoi. Il suffit de faire un peu d'effort et être un peu pragmatique et un peu sensible, peut-être aussi, quoi. Mais oui, c'est des personnes, beaucoup de personnes qui sont là ont souffert dans leur vie, et c'est des personnes qui se mettent ensemble pour continuer à vivre juste décemment, en fait. Et d'avoir une utilité, quoi. Je crois que c'est beaucoup de ça, en fait. Dans l'activité, en fait, tu as un sens. Ta personne, en fait, fait partie du puzzle. Et c'est ça qui est beau, je trouve, ici. C'est que les gens ont leur place bien précise. Ils s'adaptent à leur place. Les gens apprennent. C'est une espèce de lieu d'apprentissage. On n'est pas là pour planter des tomates. En fait, c'est une excuse, les tomates. On aurait pu faire n'importe quoi d'autre, tu vois. Et en fait, le paysan, c'est peut-être ça, en fait. C'est celui qui ouvre sa porte et qui fait avec ce qu'il a devant lui. Et devant nous, il y a de la terre, il y a des gens en errance, il y a ce qu'il y a, en fait. Et on fait avec, on jongle avec tout ça pour créer une espèce d'idéal de vie. Et on essaye d'y mettre là-dedans un peu des notions politiques qu'on a, en fait, et des valeurs un peu qu'on a. Et on se fait ce petit mélange, cette petite ratatouille, là, et on construit le monde qu'on a envie de construire, quoi.
Le slogan d'Emmaüs aujourd'hui, c'est ne pas subir, agir, quoi. C'est tout à fait ça. Voilà, on arrête de subir les choses qu'on nous impose de toutes parts.
Être bénévole, ce n'est pas une sinécure, mais bien un engagement de tout instant. Et s'impliquer corps et âme, c'est le cas de Mathieu Eclissareo, bénévole à 100%, comme il dit.
On essaye, nous, de faire notre petit monde ouvert, très ouvert, même d'ailleurs ce lieu-là, il va être très très ouvert, voire même à la contestation, voire même à l'opposition. Mais voilà, on essaie de vivre notre vraie pensée politique. C'est pas que de la bienveillance, du social, tout ça, bien sûr, mais c'est aussi une vraie ouverture d'esprit, quoi. Donc on essaie déjà de finir ces beaux travaux qui sont en cours pour cette deuxième activité d'Emmaüs Roya, à savoir, en plus donc de l'agriculture, à savoir... l'ouverture d'un restaurant, d'un bar, et surtout, ça va être surtout, je pense, un lieu de discussion, un lieu de débat dans cette vallée qui a tant à donner, quoi. C'est ce qui nous motive.
Un moment où une page s'est un peu tournée, cette page-là que tout le monde et ceux qui nous écoutent là, dans ce pagaille qui met les pieds dans la vallée de la Roya, 10 ans après qu'on en ait beaucoup entendu parler, s'ouvre à autre chose, à jouer un autre rôle.
Oui, enfin, ça demeure toujours de l'accueil, et puis les gens de passage, ou ceux qui sont en galère, voire même ceux qui passent la frontière de façon plus ou moins légale, ils ont toujours la porte ouverte, il y a un lieu d'accueil, d'urgence, etc. Mais c'est vrai que ça fonctionne de façon différente. Et puis les besoins sont différents. Je pense que même au niveau politique, on a compris qu'il fallait laisser passer, ça ne servait à rien de les barrer. Donc voilà. Quand c'était barré, c'est vrai que cet espace de la Roya, et ce qu'a fait Cédric et d'autres à l'époque, avait une vraie utilité. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins, parce que je crois qu'on laisse passer, en fait.
Un mot sur les bruits qui nous accompagnent ?
Eh ben là, c'est l'accompagnement d'une équipe de bénévoles, comme souvent c'est le cas. Hein. On a des bénévoles qui viennent de l'autre bout de la France. En l'occurrence, ça, c'est des Ariégeois, des charpentiers de métier, et qui sont en train de nous faire un escalier qui est le complément de la très grande terrasse qu'on a pu faire autour du restaurant et du bar. Voilà. Mais voilà. Après, le décor, c'est on est au pied d'une falaise de, je sais pas, 150 mètres. Il y a un peu de soleil. Le soleil sort à 11h de cette falaise tellement elle est haute. Et donc on vient de s'abriter sous une vigne qui nous protège, qui nous donne de l'ombre, qui nous protège un peu du soleil. Et sur une terrasse magnifiquement faite en bois de Nouglas.
Et qui a la forme d'une proue de bateau. Bon, c'est pas l'Arche de Noé qu'on construit, c'est pas la Tour de Babel. Mais il y a ces figures-là qui apparaissent.
Ah, on s'est aperçu de ça en le faisant. Parce qu'on s'est mis à l'étage, puisque cette terrasse est en dessous de l'immeuble où habitent nos compagnons et nos compagnes. Et c'est incroyable de voir ce hasard. On a vraiment l'impression d'être au poste de pilotage en haut, d'un paquebot. Hein. Et du coup, l'Arche de Noé, on n'avait pas pensé. Enfin, j'y avais pas pensé, c'est excellent.
Tu vois où il vient, le vent, là?
Là, Là, il descend de la vallée ou il remonte. Je suis pas très bon pour savoir d'où vient le vent, en fait.
Tu as toujours été dans le sens du vent ou des vents contraires, on va dire?
Non, enfin, je m'en branle du vent, en fait, d'où ils viennent. N'importe pas. Ça décoiffe quand même, qu'ils viennent d'un côté ou de l'autre. Ça, tu vois, ça peut troubler, quoi.
Mais il y a des vents mauvais que tu as pris pleine face.
Ouais, mais tu vois les bateaux, comment ça fonctionne, les voiliers. Et en fait, c'est par dépression qu'il y a derrière la voile, en fait, que le bateau avance.
J'aime bien l'idée de filer la métaphore encore un peu plus loin en te mettant Cédric dans le rôle du capitaine d'un bateau. On en est où dans cette aventure, dans cette vallée de la Roya?
Ouais, bon, disons que là, on n'est pas trop en voyage. On est plus arrêté sur une île et on se permet d'inventer, quoi. Ça, c'est un peu une île déserte. Et le désert, c'est l'accueil hein, qu'il y a en France, j'ai l'impression. Ça, c'est pas si désert que ça, quoi. Parce que là... Il y a quand même beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire, j'ai l'impression. C'est qu'on pense que c'est une terre inhospitalière, la France. Et quand tu vas voir tous les collectifs, toutes les assos, tout ce qui existe, tu t'aperçois en fait que c'est quand même très hospitalier comme territoire. Et en fait, peut-être ce qui n'est pas hospitalier, c'est plus la dynamique politique qui est censée nous représenter, hein, le gouvernement, l'État, etc., qui se retranche côté un peu raciste, etc. Voilà, notre bateau en fait s'arrête dans cet univers-là, un peu politique, on va dire, et où on essaye de faire ça, justement, non caché, sortir de la clandestinité, se montrer. Et là, on est sur une petite île qui s'appelle les Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si vous voyez où c'est à l'extrême droite de la France.
D'autres diraient c'est plein est.
Non, on est à l'extrême droite de la France. Et c'est l'endroit qui est quand même difficile. Imagine-toi, pour retracer un peu avant le départ, c'était en 2015, en même temps que le démantèlement de Calais. En fait, qu'il est demandé aux élus locaux, donc département, maire, etc., de créer ce qu'on appelle des CADA, c'est des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et le seul département qui a refusé, qui n'a pas eu de CADA, c'est les Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, qui département, était présidé à l'époque par Éric Ciotti. Et à ce moment-là, s'est créé ce qu'on appelle le CCH. C'est plein d'acronymes, hein, c'est chiant. Le CCH, c'est Camping Cédric Héroux, c'est bon là. Et on a créé cet accueil à la frontière franco-italienne, et de façon assez spontanée et très désorganisé, beaucoup sur, comment dire, organisé par le ressenti, j'ai envie de dire, tu vois, par l'impulsion.
Parce qu'avant, Cédric, c'était un canot de sauvetage, finalement, ce camping Cédric Héroux improvisé là-haut, à côté de Breil, en Roya, pour juste que ce qui passe, et parfois ce que vous aidez, 2500 personnes, comme ça, vous auriez aidé, tu aurais aidé à traverser, à se frayer ici un avenir.
Ouais, c'est différent. Avant, il y a entre 2016 et 2020, ces personnes qui étaient en migration, en déplacement. Et donc, on les protégeait de l'action étatique, quoi. Et maintenant, c'est plus des gens qui sont là sur le territoire national depuis quelques temps et qui se sont retrouvés sans papier, donc en fin de procédure, et qui se sont retrouvés à la rue. Et c'est ces personnes-là. C'est pas des personnes qui sont passées par chez moi auparavant. C'est des gens qui ont fait un peu leur histoire en France, qui se sont retrouvés sans papier et qui se retrouvent maintenant à Emmaüs Roya. Et on essaye d'y souffler un peu, de s'y reposer. Et puis nous, on a la prétention d'essayer de reconstruire un peu les gens et de leur donner confiance avant de repartir, quoi.
Parce qu'il faut comprendre que si l'obtention d'un permis de séjour était facilitée, il n'y aurait pas toute cette attente, tout ce moment de transition que finalement ici, on essaye de rendre le plus vivable possible, jusqu'au point de faire communauté certes, mais presque famille.
Ouais, ça fait un peu... C'est vrai qu'on est une toute petite communauté, on est... Donc là, il y a 9 adultes de compagnie et compagnon et 6 enfants. Après, il y a Marion et moi qui sommes responsables de communauté, puis des bénévoles qui gravitent autour de tout ça. Et c'est vrai qu'on, ça fait plus famille. Et souvent, en fait, ce qui relie les gens, c'est le manque de famille. C'est, il y a toujours eu un conflit familial quelque part, que les personnes soient étrangères, françaises. Ou, dans leur récit, c'est souvent ça, en fait, la rupture avec la famille. Et là, les gens réapprennent à se reconstruire autour de d'autres et sortir de l'isolement aussi, quoi. Ouais, puis c'est plutôt chouette de les voir.
Et avec 6 enfants qui sont là, qui sont, j'imagine, scolarisés aussi.
Ouais, qui sont là, puis qui sont chouettes. Hein. Puis ça donne vraiment la cohésion, les gamins. Je trouve que c'est important. Au début, quand on a monté ce projet-là avec Marion, c'est qu'on avait vraiment envie qu'il y ait des familles. Donc c'est toujours plus compliqué parce que voilà, c'est de l'orga. Mais quand il y a des gamins, en fait, les règles deviennent, comment dire, normales et légitimes, par exemple pour le bruit, pour la question de l'alcool, des drogues, du comportement, de tout ça, quoi. Et tout devient, comment dire, normal et compréhensif pour tous, quoi. Et tu vois, si on a 8 nationalités sur 9 individus, c'est qu'on l'a choisi. C'est que concrètement, si tu as chez ces 9 adultes, on va dire 4 personnes qui parlent la même langue, en dehors du français, c'est qu'il va y avoir une communauté dans la communauté. Et ce qu'on veut, nous, c'est que la communauté se fasse autour, en fait, de l'idée d'Emmaüs Roya, et pas forcément se retrancher dans sa langue ou sa nationalité. C'est pour ça qu'on fait exprès, en fait, de prendre des personnes de nationalités différentes. Tout ce qu'on fait, c'est mûrement réfléchi, c'est pour ça que ça marche. Et à Emmaüs Roya, mine de rien, ça se construit. Donc on est loin de l'idéologie, en fait.
Ça va ? J'ai rendez-vous dans sa chambre avec Christian.
Ok.
Et là, on rentre dans ta chambre.
Voici ma chambre, c'est ici que je vis. Ici, c'est le frigo. Et ici, c'est l'armoire où je mets des affaires. Et là, j'ai un balcon. Je ne sais pas si tu peux le faire visiter.
Ouais. On ouvre la persienne.
Là, il y a une rivière. Il y a des montagnes. Et il y a la forêt aussi. Et toute cette vue, tu vois comment c'est.
Avec ce soleil qui tape.
Ah, vraiment, c'est très magnifique ici. Très magnifique.
Par où t'es arrivé, toi ?
Du coup ?
C'est parce que je vois la rivière, je vois la montagne, je vois tout ce chemin. Et je sais ce que ça représente aussi, des fois, quand on a quitté son pays. C'est le chemin qu'on a dû faire.
Bien sûr, c'est une aventure pour moi. C'est pas du tout facile, mais ça va. Et ici, on vit en famille et du coup, ça se passe bien. Mais moi, je suis quitté mon pays et j'ai traversé des montagnes, et j'ai traversé le désert, j'ai traversé la Méditerranée. Du coup, je suis arrivé ici en France.
Ton pays, c'était le Cameroun, c'est ça ?
Oui, c'était le Cameroun.
Enfin, c'est le Cameroun.
C'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est mon pays. Et la France aussi, c'est mon pays. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la France.
Je vois que tu as une photo du pape François devant ta glace.
Oui, ça, je suis un chrétien. Et j'ai aussi la Vierge Mère, Fatima. Elle est là à côté avec moi. Parce que c'est très important pour moi. C'est pour ça que je l'ai ici avec moi. C'est mon ange gardien, en fait.
Un ange gardien qui t'a permis d'arriver jusqu'ici. Quel âge tu as ?
J'aurai 30 ans le 8 octobre.
Tu es arrivé quand ici ?
Je suis arrivé en juillet, en fin juillet. Et là, je suis à peu près 2-3 mois comme ça et que je suis là. Et je suis parti au Cameroun en 2019. Je suis arrivé au Nigeria. J'ai traversé le Nigeria, j'ai traversé le Niger. Je suis arrivé en Algérie. En Algérie, je suis arrivé, j'ai eu les... Ça, c'est un peu compliqué. Je suis allé d'abord au Maroc, je suis ressorti parce que j'étais un peu perturbé par mon voyage. Et je suis allé en Libye. Et en Libye, j'ai fait la prison là-bas. En Libye, j'ai fait un an de prison. J'étais à Zaouya. J'ai souffert. Après un temps, et à chaque fois, on me disait il faut appeler tes parents et pour que tes parents puissent envoyer des sous, pour que tu sors de la prison. Moi, j'avais personne au Cameroun. Et j'avais un peu des oncles, mais ces oncles-là, et moi et eux, on ne s'entendait pas. Parce que ce sont eux qui ont fait du mal à ma famille. Et je n'avais personne. Et à chaque fois, le mec de la prison venait et il me dit, si tes parents n'ont pas l'argent, et tu vas perdre toute ta vie. Et à chaque fois, il me dit ça. Je dis au mec, si tu as un truc à faire, et je ne sais pas si je peux travailler pour prendre de l'argent, pour payer ma tête et sortir. Et à chaque fois, le mec me dit non, et ici, quand tu arrives ici, il faut payer avant de sortir ou bien tu vas perdre ta vie. Et un jour, il est venu avec ses amis, il est venu nous prendre, nous disant il va nous libérer, il nous a amené quelque part. Et c'était la nuit, il nous a bastonné. Je me suis évanoui. Après ça, des amis qui étaient à côté de moi, et on a tiré sur eux. Et après, eux, ils ont mis à me frapper. Et je me suis évanoui. Donc, ils ont cru que je suis mort. Ils m'ont jeté dans un trou. J'étais évanoui. Je ne connaissais rien qui m'arrivait. Rien, ce qui m'arrivait. Après, le matin, je me réveille. Et je me soupçonne. Et je regarde, je vois plein de cadavres au sol. Et après, un berger passait, je lui demande où je suis, il me dit non, il ne faut pas parler fort, si tu parles fort, et ici on va te ramener en prison, et parce que le monsieur là passe ici tout le temps. C'est comme ça que je demande les aides au monsieur là, c'était un blanc comme moi, et il ne m'avait pas donné son nom, il me prend, il m'amène chez lui, il me cache derrière des moutons, il me donne de l'eau avec un peu de pain pour manger. Après, quand la nuit arrive, il m'amène à une ville qu'on appelle Zaouya. Quand il m'amène là-bas, je pars là-bas, je tombe dans un foyer là-bas. Il y avait un peu de Camerounais avec des autres nationalités. C'est comme ça que je pars là-bas, je soumets mon problème là-bas. Et des gars là m'ont dit qu'aujourd'hui, il y a un bateau qui va sortir, qui va aller en Europe. Et je les ai dit que mettez-moi dedans, ils m'ont demandé des sous, je les ai dit, je n'avais pas les sous avec moi. C'est comme ça que les mecs m'ont pris, avec le cœur, ils m'ont mis dans ce bateau. Et ce bateau, j'ai failli perdre ma vie, et j'ai fait 4 jours sur l'eau, et on est tombé en panne, on appelait, il n'y avait personne. C'était en 2021, il n'y avait personne, personne qui nous venait en aide, on appelait fatigué. Après, il y a un bateau qui est venu qui s'appelait Salvamento. C'est eux qui sont venus parce qu'ils cherchaient un autre convoi qu'on avait lancé le jeudi. Ils sont venus maintenant, ils sont tombés sur nous. Et quand ils sont tombés sur nous, j'ai dit Dieu merci. Parce que j'ai vu la mort venir avec moi, mais j'ai vraiment Dieu. Vraiment, Dieu n'oublie pas ses enfants. Parce que si le père là n'était pas là le jour là, c'est qu'aujourd'hui, je ne parle pas, je ne sais pas si je vis encore. Donc je remercie le bon Dieu vraiment que je suis là aujourd'hui. Donc mon avenir, je ne sais pas trop, mais c'est un peu difficile. Des fois, je craque, j'ai pas du moral, j'ai pas de vision, je n'ai rien du tout, et je suis toujours dans le cauchemar, et voilà. c'est un peu difficile de ma part. C'est très difficile. C'est très difficile à croire. C'est difficile.
Merci, Chris.
En fait, que l'État, ce qu'a mis en place avec le contrôle aux frontières, avec ce racisme qui est là, avec cette volonté de fermer quelque chose qui est infermable, c'est les Alpes. Tu ne pourras jamais fermer les Alpes, c'est impossible. Matériellement, ce n'est pas possible, quoi. Et les idéologues, on voit bien que c'est l'État en ce moment. Là, on le voit par les chiffres. En 2016, donc l'État, en fait, en 2015, l'État a rétabli le contrôle aux frontières. On regarde maintenant, en 2024, c'est quoi les conséquences, en fait ? Elles sont nulles. Elles sont nulles, ça a coûté des millions, des milliards d'euros, et ça n'a pas marché. Parce que, mis à part, en fait, ralentir, tu crées un bouchon sur l'autoroute, c'est tout, quoi. Et ça n'a jamais empêché les gens de passer. Imagine-toi des gens qui sont partis de leur pays, qui ont traversé la Libye, qui ont traversé la Méditerranée, et les personnes arrivent à Vintimille là, et on leur dit « Ah non, c'est fermé, ah bon, pardon, je reviendrai plus tard », enfin, c'est aberrant. Et puis quand tu regardez, j'encourage les gens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, regardez une carte de la frontière franco-italienne dans les Alpes, regardez les routes, regardez tous les passages et les chemins qui existent. Enfin, c'est pas nouveau que les gens se sont déplacés, c'est depuis l'histoire de l'humanité. L'échec qu'il y a eu dans la vallée de la Roya et le trouble de public qu'il y a eu dans la vallée de la Roya, c'est des causes en fait de l'action préfectorale, étatique. C'est pas notre action en fait qui a foutu le bordel. Hein.
Mais votre action a permis de changer la constitution. En 2021, le Conseil constitutionnel vous a donné raison, le délit de solidarité s'est transformé en...
Je vais vous faire juste un récap, on a fait une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. Donc il y a notre devise qui est liberté, égalité, fraternité. Et bon, bien évidemment, la devise est dans la Constitution. Mais à valeur constitutionnelle, il n'y avait que l'égalité et la liberté. Et la fraternité n'y était pas. Donc ça veut dire que les législateurs, quand ils font des propositions de texte de loi, on les envoie au Conseil constitutionnel, chez les sages, et les sages regardent si c'est bien constitutionnel ou pas. Donc en fait, s'il y a une loi qui mettait à défaut l'égalité, c'était pas possible, parce que c'était anticonstitutionnel, ou la liberté pareil, mais la fraternité, en fait, il n'y avait pas de question, parce que la fraternité n'est pas valeur constitutionnelle. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est d'appliquer notre devise, de voir, et donc du coup, de mettre la fraternité, de la mettre à valeur constitutionnelle. Et du coup, le Conseil constitutionnel a validé, en fait. Et la loi est devenue, ce qu'on appelle le délit de solidarité, est devenue anticonstitutionnelle. Et ce qu'il n'y a pas de liberté sans fraternité, il n'y a pas d'égalité sans fraternité. Et ces trois mots sont liés, quoi.
C'est quoi comme recette ?
Alors là, c'est une purée de piment.
De piment rouge. C'est un truc que tu as déjà fait ou pas ?
Non.
En fait, ici, ce qui est pas mal, c'est qu'on te fait faire des choses, Philippe, que tu n'as jamais faites et que tu fais volontiers.
Bah oui.
Tu sais jusqu'à quand t'es là ou pas ?
Je suis là normalement jusqu'à le mois prochain. Non.
Il y en a qui vont rester plus longtemps.
Ah bah oui. Il y en a qui vont rester beaucoup plus longtemps.
Vachement dans l'action et on fait ce qui nous semble être nécessaire de faire. Enfin, tu vois, et ça, même en discutant, ça nous arrive souvent de discuter avec les divers préfets qui passent successivement dans les Alpes-Maritimes. Et ils nous prennent pour des idéologues, des gros militants. Moi, je suis un gros militant, ça c'est évident. En fait, ce que j'ai appris, c'est que le militant, c'est devenu une insulte. Mais vraiment, c'est, tu vois, les soulèvements de la terre ou tous ces gens en fait qui se battent contre l'autoroute, la 69. Le militantisme est devenu une insulte. On est devenu des sous-citoyens. Tu vois, moi, mes premières condamnations pour ce fameux délit de solidarité, en fait, on pouvait aider de façon humanitaire, mais il ne fallait pas qu'il y ait de contrepartie. Et pour moi, ils ont trouvé une contrepartie. Ils ont dit que c'était une contrepartie militante. Au début, j'ai rien bité quand le juge m'a dit ça. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que tu as le citoyen un peu bête qui fait sans trop réfléchir, donc qui va aider des gens, ça, il a le droit. Mais quand c'est une personne, en fait, avec une philosophie politique, là, c'était pas pareil. Là, il pouvait être incriminé. En fait, notre société, elle est née sur le rêve et sur la solidarité. Nous, c'est ce qu'on fait à Emmaüs Roya. C'est pour ça que c'est pas non plus complètement dingue ce qu'on est en train de faire. c'est que c'est les fondamentaux en fait de notre société. Elle est basée sur la solidarité. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus de mérite de faire ce que je fais qu'un infirmier ou une infirmière qui va soigner ou accueillir des gens ou des gens qui vont ramasser des poubelles pour d'autres. En fait, ce qui choque, c'est pas ce que je fais, parce que ce que je fais, il y a plein de gens qui le font. Ce qui choque et ce qui interloque dans ce que je fais, c'est que je le fais sans l'acquiescement en fait des pouvoirs politiques. C'est l'engagement sans limite, je pense.
Il y a le côté quand même qui n'a pas échappé à notre prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio, d'une forme de héroïsation. Vous êtes son héros.
Le Clézio, c'est différent, c'est que ça lui a rappelé aussi ses racines. C'est qu'il a aussi, tu vois, ses grands-parents ont atterri dans la Vésubie, pas très loin d'ici. Ça lui a rappelé son passé, son histoire. Comme moi, ce que je fais, ça me rappelle aussi l'histoire de mes grands-parents. Et je pense qu'il dit héros pour provoquer, j'imagine. Il a eu envie aussi de participer à cette lutte à sa manière, avec sa plume.
Et en préfaçant ton premier ouvrage.
Ça a été un beau cadeau, assez gênant, parce que moi je trouve qu'il exagère un peu quand même. mais ouais, dans cette lutte-là, chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a, et c'est ça qui est beau, quoi. T'as des infirmières et des infirmiers qui ont sorti leur pansement, t'as les avocats qui ont sorti leur livre de droit, t'as les cuisiniers qui ont sorti leur louche, leur casserole, et c'est un peu... Chacun fait ce qu'il peut à sa manière, et chaque personne est importante dans la lutte.
Il est quelle heure, là?
Les 12.
Le repas, c'est à 1h30. On rigole pas avec les horaires, ici.
Ouais, midi et quart.
Et Jadine, qu'est-ce qui se prépare?
Quelque chose comme des aubergines.
On attend combien de personnes?
Entre 15 et 20.
Chaque jour comme ça?
Non, ça va de 10 à 30.
Oui.
C'est bon. Bon, mais bon appétit les compagnons, les bénévoles, les compagnons.
Il est 1h30, le déjeuner est fini. Cédric est en train de parler avec des gens du village qui lui font un petit brief sur les actualités locales. Et Ferry, ça y est? Le déjeuner est fini.
On a mangé haricots.
On mange ce qu'on produit aussi. C'est, beaucoup de choses viennent d'ici.
On a un grand terrain pour les légumes. On a tous les légumes ici, les maïs et roya.
C'est ce que tu vends tous les mardis au marché ici. Alors il y a une autre chose qui est importante. On va quitter la cuisine. C'est une grande cuisine toute neuve. On monte au premier étage de cette belle bâtisse qui a été entièrement rénovée. Là, on rentre à l'intérieur de ta pièce, qui est presque un petit appartement. C'est un studio.
C'est un studio.
On peut s'asseoir sur le canapé. Ferry, on fait un saut dans le temps. Et on est le premier jour où tu as rencontré Cédric Héroux et Imaüs Roya. Comment ça s'est passé? De quoi tu te souviens?
Je dis que... Il m'a montré la chambre, tout Ferry, ça, tu vas rester ici, on a travaillé ensemble, on va travailler ensemble.
Qu'est-ce que tu as quitté là-bas, qu'on comprenne, Ferry, ce qui t'a fait t'arracher à ta terre natale?
Moi, je suis venu ici parce qu'il y avait problème des politiques. Je suis congolais, Kinshasa. Je suis venu dans les visas, mais il fallait que je parte. Parce que j'ai peur, parce que je connais notre pays, comment ça marche.
Quel métier tu faisais?
Moi, je suis artiste et coiffeur. Je joue les guitares. Mais mon métier de base, c'est coiffeur. Et heureusement, Diego, j'ai trouvé la communauté Emaïs-Roya. On travaille ensemble. Ça, ici, c'est la famille. Aujourd'hui, je n'ai pas les papiers. Voilà. Donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Là, ça me fait un peu mal. Mais moi j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que je vais rester ici, à Breil. Oui, dès que j'ai reçu les papiers, je vais chercher l'appartement ici à Breil. Je vais chercher le travail ici à Breil.
Mais et tu vas trouver quelqu'un pour vivre, pour faire une famille, une autre famille ici?
Ah, mais oui. J'ai mes enfants. J'ai la famille. Ils vont venir parce que ça, c'est ma ambition. Je vais vivre avec ma famille.
Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu les appelles sur WhatsApp ou sur, avec ton portable? Qu'est-ce qu'ils te disent? Papa, tu reviens? Ou papa, quand est-ce que Corona arrive? C'est quoi?
Mais 4 mois passés, j'ai perdu un enfant. Et là, à l'âge de 14 ans, il avait un problème de gastrite. Je suis tout seul ici. Tout seul. Alors, ma pression, j'ai la pression pour mes familles. Vraiment, quand j'ai reçu les papiers, ils vont venir. Tous les jours, j'ai pensé. Tous les jours. Depuis que je suis arrivé ici en France, 2021, le 15 septembre, quand je vois beaucoup de parents avec ses enfants, moi j'ai pensé, pourquoi pas moi? Mais ici, je vis comme un prisonnier. Peut-être je peux dire comme ça. Parce que sans enfants, sans la femme, sans mes parents. Mais un jour, il aura.
Merci, Ferry.
Je vous en prie.
On quitte les bruits de la cuisine, où il y a une purée de poivrons qui a été faite, mais par litre entier, pour être vendue au marché, évidemment. Loïc, le rôle d'un président d'Emmaüs Roya, c'est lequel? Comment tu le définirais?
Je pense qu'il faut avoir une vision assez globale de ce qui se passe ici, justement, pour pouvoir déjà être un porte-parole, mais aussi pouvoir permettre la communication interne, faire vivre la dynamique collective, essayer de créer une dynamique avec les autres bénévoles qui ne sont pas toujours sur le terrain, pouvoir se déplacer aussi et puis défendre notre projet, se défendre contre les attaques, passer devant la justice, ce genre de trucs. Voilà. Après, on n'a pas de... Nous, on ne s'attache pas vraiment au rôle, c'est-à-dire que président, bénévole, salarié, compagnon, on essaie de... Voilà, chacun prend la place qu'il a envie de prendre, surtout.
Comment t'es tombé dans la marmite ?
J'ai toujours été militant. Et donc en 2015, quand l'État français a rétabli illégalement les contrôles aux frontières, c'est devenu un peu le cheval de bataille, un peu monotache. Parce que quand on se rend compte de ce qui se passe à la frontière, c'est un peu difficile de décrocher ensuite. Et donc, à force de travailler sur la frontière, forcément, on croise des gens, on crée des collectifs, on se rend compte qu'on a des ambitions communes qui vont au-delà de la réaction humanitaire, mais plutôt de projets politiques militants. Finalement, rejoindre Emmaüs, c'était juste, on s'est rendu compte, mettre en forme ce qui existait déjà, cadrer. En fait, nous, on cherchait un cadre réglementaire, légal, pour pouvoir continuer à accueillir les personnes. On faisait déjà de l'accueil inconditionnel, parce que parmi les personnes exilées, on a tout type de profil, et qu'on a trouvé, grâce à Emmaüs, un cadre réglementaire pour éviter de se faire embêter sur la manière dont on accueille et dont on met en activité les personnes pour pouvoir leur permettre de penser à autre chose que les traumatismes passés.
Alors Loïc, ce cadre, comment on l'expliquerait à ceux qui... justement, le rencontrerait pour la première fois. C'est la première communauté Emmaüs. Il y en a 120 en France, sur le territoire, qui est une communauté spécifiquement agricole. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous singularise et qui a un rapport avec ce que certainement Cédric faisait en se positionnant comme paysan avant tout.
On est effectivement la première agricole, uniquement agricole, et je pense qu'il y en a d'autres qui suivront, puisque effectivement l'idée c'est de sortir vraiment du consumérisme et de sortir de l'idée de la recyclerie, même si c'est très bien la recyclerie, mais ça dépend de l'hyperproductivité des entreprises capitalistes. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est donner une réponse autre, en disant qu'on est indépendant du système économique actuel. Et sur comment expliquer comment ça fonctionne, en fait, c'est une grande colloque de personnes en grande précarité, donc on a énormément de personnes qui ont vécu la rue et beaucoup de traumatismes, et donc ici dit ce qu'on va amener. Il faut sortir de l'idée, justement, il y a une activité agricole, mais il faut sortir de la question du travail tel qu'on l'entend nous, parce qu'effectivement, les personnes ont 35 heures d'activité, du temps dédié au collectif, donc c'est pas juste du travail, et surtout, les personnes ne sont pas là pour être productives, pour être rentables, elles vont à leur rythme, si on s'adapte, on sait qu'il y a des personnes qui peuvent pas faire telle chose, qui seront pas rentables si elles étaient dans une entreprise en travaillant de la sorte, mais c'est pas grave, les personnes sont là pour aller bien, et nous, on leur apporte en premier lieu, le confort matériel, avec évidemment l'hébergement, la nourriture, l'hygiène, etc., tout ce qui est de cet ordre-là. Et en plus, les personnes cotisent pour leur retraite et l'assurance maladie, qu'elles soient en situation régulière ou pas, et ça, c'est assez inédit. Et en plus, elles ont un pécule de 400 euros par mois, qui n'est pas un salaire, mais juste une allocation d'appartenance à la communauté. Et surtout, ce qui est apporté ici, ce n'est pas quantitatif, c'est tout ce qui est la sécurité, sécuriser le quotidien des personnes, notamment pour les familles qui ont des enfants, qui sont scolarisés. En fait, ça n'a juste pas de prix, quoi.
Il y a même quelque chose qui les protège quand ils sont en attente de régularisation, quand ils sont ici dans la communauté, même quand ils sont en OQPS, c'est-à-dire presque menacés d'un renvoi aux frontières, ils sont protégés.
Voilà, donc les personnes qui sont sous obligation de quitter le territoire français, dans les communautés Emmaüs, il y a une sorte de tolérance administrative du fait que l'État reconnaît que les communautés Emmaüs font un travail d'insertion extraordinaire que nul autre ne fait, il faut le dire, hein. Il y a pas, c'est pas juste pour se lancer des fleurs. Et donc, en fait, les personnes sont considérées dans un processus d'intégration fiable. Après, il n'y a pas de règle établie là-dessus. Selon les relations que les communautés entretiennent avec la préfecture, des fois, ça se passe très mal. Il y a déjà eu des expulsions du pays de compagnes ou compagnons qui étaient en situation irrégulière. C'est très rare, mais quand même, c'est arrivé. C'est pas écrit, etc. Mais ça tend à le devenir, effectivement, parce que c'est un travail du mouvement Emmaüs. Ça marche plutôt bien, mais voilà, c'est un peu bancal. On a eu des sacrés épisodes un peu tendus avec les forces de l'ordre, mais voilà, dans l'ensemble, on s'en sort toujours. On arrive toujours à faire en sorte que ça se finisse bien. Mais on est quand même dans un lieu où, voilà, si une personne noire se fait arrêter, si elle est Emmaüs, ça passe. Si elle n'est pas Emmaüs, elle se fait refouler illégalement vers l'Italie.
Ce qu'on fait, on ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire, on le fait parce qu'il y a une nécessité de le faire. C'est différent. Et ce que j'appelle souvent, on me dit aussi, mais quand est-ce que tu t'engages en politique et tout? Mais ça, c'est ça la politique en fait. C'est cet engagement-là. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir l'acquiescement d'une majorité de personnes ou que les gens soient d'accord avec moi. Si demain, il y a 99% des Français qui sont contre ce que je fais, je continuerai à le faire.
Et c'est là où certains finiront par te trouver arrogant, hautain, méprisant.
Je sais pas. Je pense qu'il y a une histoire aussi de petite jalousie. C'est qu'il y a tous ces gens-là dans le village qui espéraient, qui pensaient que j'allais finir en prison. Et là, on monte une dynamique économique, agricole, économique par l'assaut, en fait, hein, qui monte un resto associatif, qui a acheté un bâtiment qui est balèze, avec des fourgons, avec des tracteurs, avec, tu vois, on grossit, on grandit. Et les gens pensent, en fait, qu'on est dans un système de charité. Ils auraient préféré, les gens... Moi, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'admiration de gens dans le village si je m'étais planté. Tu vois, si j'avais fini à dire oui... ça marche pas, je me retrouve sans rien. Je leur dis, mais moi, j'ai rien perdu. Enfin, j'ai tout donné, mais j'ai rien perdu, en fait. Tous mes outils sont plus à moi, mais ils sont à nous. J'ai donné mon camion, les poulaillers, les machins, les outils, mes fourches. C'est compliqué, hein, se déposséder, c'est très compliqué. Hein. Mais là, maintenant, on a ensemble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, quoi. On n'est pas en train de rêver, là, on est en train de faire, en fait. Après, c'est compliqué, hein. C'est sûr, c'est compliqué. Quand tu vois quelqu'un partir avec tes godasses, tu fais, putain, mes godasses. Et c'est compliqué. Mais quand plus rien n'est à toi, tout est à toi aussi, en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est ça un peu la jalousie, c'est que on est un peu à contre-courant, quoi. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est pas parce que t'es à contre-courant que c'est mal.
Ici, il y a quelque chose, peut-être, question au président, qui est une petite fierté. Ici, on fait famille aussi.
Oui, c'est vrai. Le concept de communauté fonctionne vraiment. La première fois où vraiment il y a des personnes accueillies ici qui ont dit « mais en fait, on est une vraie communauté », c'est le jour où on a un compagnon qui s'est retrouvé à la police aux frontières et que coûte que coûte, Marion et Cédric ont réussi à le faire sortir et le ramener à la communauté. Et là, les autres se sont dit « ok, en fait, on est vraiment une communauté, on peut compter les uns sur les autres ».
Surtout, et là, tu as le droit de réagir, qu'il y a un chef de famille. On a l'impression quand même que, alors sans le mettre dans le rôle du pater familias, Cédric est charismatique et qu'il a qui l'entraîne, ça aide.
Oui, carrément. Non, on a vraiment la chance, on ne va pas se mentir. Hein. Moi, j'ai toujours eu peur des gourous. Mais bon, alors au début, j'étais un peu frileux avec Cédric, qui soit responsable de communauté avec Marion. Et ça, en fait, c'est tout l'intérêt aussi de la réflexion, et notamment avec l'actualité vis-à-vis de l'abbé Pierre qu'on peut lier à ça. Il est hors de question qu'on tombe dans un truc où, justement, il y a le pater et la mater. On essaie vraiment de travailler ça. Et en fait, bon, maintenant que je le connais, je sais que c'est tout sauf un gourou. Il est très pragmatique, et il a une manière de réfléchir qui est assez originale, on va dire. Donc il y a ça, il y a le fait qu'il a énormément de connaissances techniques en agriculture, en mécanique, en construction de bâtiments, enfin tout ça. Donc effectivement, ouais, c'est quelqu'un de très important. Il a quand même cédé son exploitation agricole, mis à disposition ses outils et aussi le personnage Cédric Héroux, le personnage médiatique qui est un outil extraordinaire pour nous et sans lequel évidemment on ne serait pas là. Mais pour autant, on essaie de travailler au maximum à mettre en place des outils pour que tout devienne collectif, que les pouvoirs soient partagés. Et voilà, et Cédric, il ne va jamais aller contre le collectif. Il donne son avis. Si la majorité n'est pas d'accord, il rechigne un peu comme tout le monde, mais il ne va pas arguer « oui, mais sans moi, vous ne savez rien », etc. Ça ne s'est jamais arrivé. C'est aussi un truc assez unique dans mon expérience personnelle, de voir quelqu'un à qui on doit beaucoup, voire presque tout, mais qui n'en fait pas une arme de pouvoir personnel. En fait, Cédric a accepté à un moment donné d'incarner toute cette solidarité pour pouvoir porter un message politique qu'on sorte de la réaction humanitaire, de l'urgence humanitaire dans laquelle on était coincé. Et je pense qu'on doit lui rendre cet hommage. Mais à la fois, évidemment, Cédric ne serait rien sans toutes les personnes qui sont restées tapis dans l'ombre et qui continuent à être tapis dans l'ombre et qui continuent à aider, à vouer leur vie pour certains à la solidarité. Et ça, c'est évident.
Bon, t'as laissé les troupes là, elles font, ouais. elles sont en train de faire quoi?
Là, ils ramassent. Les résonions, ils les ont ramassées ce matin. Et là, on est en train de démonter des cultures de courgettes et de concombres pour planter de la mâche, de la salade et je sais plus quoi d'autre. J'ai marqué, j'ai oublié. On va voir les oignons.
Alexandro, il y a chez le Roumain qui n'est plus à la maison, ici, comme un nouveau chapitre, puisque ça fait 5 ans, c'est ça, que tu es arrivé ici, à Emmaüs Roya.
Écoute, mon pays n'a pas besoin de moi. Je m'en battu pour mon pays. Et puis, j'ai tout perdu, famille, les enfants, tout. Pour moi, c'est terminé la guerre. J'ai tout perdu. Je me trouve au Tille, où je suis. Ici, les Emmaüs, non, généralement, les Emmaüs, ils vous travaillent. Mais pour ça, on est en communauté. C'est ça qui m'a chauffé le cœur, qui m'a fait d'attendre, de rester et de vivre. Je veux continuer. Où ça va arrêter, ça va arrêter. M'en fous. C'est ça ma vie.
Loïc, pour évoquer et pas prendre trop de temps au président que tu es. Ici, ça s'appelle le bol d'air. C'est-à-dire qu'il va y avoir, au sein de ce bâtiment que vous avez acheté il n'y a pas si longtemps et qui est en train d'être entièrement repensé, réhabilité, en plus des logements pour les 9 compagnons et leurs familles, il y a aussi des projets de lieux où on se rencontre, où il y a un restaurant, où il y aura des rencontres, où il y aura des concerts, où il y aura des débats, où il y aura tout ça.
Ouais, du coup, oui, ce sera une cantine associative ici. On n'aime pas trop le mot restaurant parce que ça ne représente pas trop ce qu'on est. Mais oui, l'idée, c'est de valoriser nos produits autrement que par la vente. Donc, on va cuisiner. On a des gens qui cuisinent excellemment dans cet asso. Donc, autant en profiter. Et il faut le dire, il faut qu'on arrive à équilibrer le budget. Donc, ça sert aussi à ça. Mais ce n'est pas pour des raisons économiques à la base qu'on a lancé ça. L'idée, c'est vraiment de recréer un espace à l'intérieur de ce village qui se meurt, il faut le dire, comme beaucoup de zones rurales, où les personnes peuvent profiter gratuitement, justement, d'un espace pour que ce soit des ateliers, des concerts, des conférences, du théâtre, peu importe ce que les gens ont envie d'amener ici, une dynamique culturelle. culturelle, politique. On accueillera tout le monde, sauf évidemment des personnes qui ont des idées à l'opposé des nôtres. Enfin, en tout cas, ils ne pourront pas organiser, mais ils pourront venir débattre, ça c'est évident. Et voilà, et l'idée, c'est de recréer une sorte de foyer social et rural, en fait, et être au service de la vallée, pas juste de la communauté. Ça, voilà, créer cette ouverture pour pouvoir parler de ce qu'on fait, et que les gens viennent parler aussi de ce qu'ils font.
Et ça commence par un rendez-vous bientôt, où notre confrère de Mediapart, fondateur Edoui Plédel, sera même là.
Oui, oui, le 28 septembre, 27, 28, 29 septembre, on accueille le Tour Alternatiba. Donc, c'est Alternatiba, la vieille association du Pays Basque, qui fait le tour à vélo de lieux alternatifs. Ils ont choisi de venir chez nous, on en est honorés. Et donc, à cette occasion, il y aura des conférences, il y aura des concerts avec Zoufri Maracas et Djebaliti, qui sont des groupes assez cool, on va pas se mentir. Et aussi, il y aura des manifestations, donc notamment la Vélorussion, qui partira de la frontière jusqu'à chez nous, pour encore une fois rappeler que c'est un lieu de violence, la frontière. Et aussi une action paysanne pour revendiquer l'accès à la terre pour toutes les personnes qui veulent faire de l'agriculture paysanne et biologique ici ou ailleurs. Donc ça risque d'être un gros événement. On n'a pas trop l'habitude dans le département, vu qu'on est un département très à droite. Hein, il faut le dire. Et donc, c'est un événement attendu, je pense, et j'espère que ça se passera au mieux et qu'on sentira résonner la dimension très politique de qui on est.
Ici, le monde se rencontre. On est au centre du monde.
Absolument, Breil-sur-Roya, c'est le centre du monde.
Merci à Cédric Héroux et à toute son équipe d'Emmaüs Roya. Et si vous passez par le marché de Breil-en-Roya, dites bonjour à Ferry que je croise là en quittant la vallée. Ferry, les affaires sont bonnes ?
Très bonnes.
Qu'est-ce qu'on a vendu ce matin ?
Ouais, les melons, aubergines, les oignons, tomates, les œufs, oui, les salades, les persils aussi. Il y a beaucoup.
Si vous avez envie de soutenir notre engagement sans faille dans le podcast à Blast, partagez Pagaille, votre collection qui sait prendre chaque mois la poudre des scampettes et le pouls de nos territoires.
Une création.
Blast.